Dans Jean 5 ce matin, on va considérer le thème de l'année, hein, c'est « Voici ton Dieu », on considère les attributs de Dieu. Quel, je ne sais pas pour vous en tout cas, je pense que ce n'est pas juste un plaisir pour moi, mais je sais pas, mais découvrir la grandeur de notre Dieu, tout-puissant, notre Dieu, comment qu'on a vu d'attributs 10? Non, 11, on est rendu à notre 12e. À toutes les fois, j'ai été émerveillé. Quand on plonge nos regards dans la parole, puis qu'on découvre quel grand Dieu, puis on s'arrête juste sur une facette de notre Dieu, puis on sait que notre Dieu est infini, on ne pourra jamais, c'est inépuisable, comment on peut découvrir notre Dieu. Mais waouh, c'est tellement merveilleux de voir comment grand est notre Dieu, comment il est digne de toute louange, de toute confiance. Et ce mois-ci, on termine l'année 2020 en considérant le Dieu vivant. Voici ton Dieu vivant. Et pour regarder ça ensemble, on commence avec un message où est-ce qu'on va voir les caractéristiques de notre Dieu vivant. Et on commence dans Jean 5. On va lire les versets 24 à 26. Où est-ce que Jésus parle? Et j'aimerais qu'on note quelque chose par rapport à ce qu'il va nous dire ici. Dans Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. »
Amen.
On va prier. On te remercie, Seigneur, que tu es la vie, que tu es la source de toute vie et qu'en toi, les sources de la vie jaillissent. Merci que tu es ce Dieu vivant qui n'est pas comme les idoles faites de main d'homme. On a passé du temps à prier, à chanter, à t'adorer. Tu as entendu toutes ces choses qui sont montées devant toi comme un parfum de bonne odeur. On te remercie que ce n'est pas un culte vain qu'on a voué ce matin et qu'on te voue parce que tu es là, au milieu de ton peuple. On te remercie, Seigneur. C'est toi la personne la plus importante de cette réunion ce matin. On veut vraiment te louer du fait que tu te révèles à nous tel que tu es dans ta parole. Pas selon l'imagination des hommes, mais selon ce que toi tu dis être. On te remercie qu'on ait ce privilège de pouvoir te connaître à travers ton Fils Jésus-Christ. Et on te prie ce matin que tu illumines les yeux de notre cœur, que tu formes dans tes enfants le Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse grandir en chacun de nous. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur, on t'implore, montre-leur la gloire de la croix, de la résurrection, de voir qu'il y a un seul chemin à Dieu, et c'est par Jésus-Christ. Seigneur, on te prie que tu fasses ton œuvre d'une façon majestueuse et glorieuse ce matin, afin qu'on te loue, qu'on te donne toute la gloire qui t'est due. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, un beau passage et on va, cette semaine, on commence avec ce passage-là. La semaine prochaine, Dieu voulant, si on est encore là et si Dieu le permet, on va aussi aller dans ce passage-là parce que c'est un passage où est-ce que Jésus a pas mal d'affaires à dire sur la vie. On sait que dans Jean, en général, hein, le fameux passage qu'on cite souvent quand on parle de la vie concernant Jésus-Christ, hein, c'est Jean 14:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En passant, quand on parle des choses les plus fondamentales pour les êtres humains, le chemin, hein, les gens se demandent où est-ce qu'on s'en va dans la vie, hein, qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs comme question dans les derniers messages, pourquoi on est sur terre, c'est quoi le sens de la vie, Jésus est le chemin, la vérité, on est dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de confusion, parce qu'on entend des choses à gauche, à droite, qu'est-ce qui est la vérité, et c'est pas nouveau, Ésaïe de son temps disait, la vérité trébuche sur la place publique, mais Jésus est la vérité, et la vie, parce que c'est pas juste d'avoir de la vie dans nos veines et tout ça, on a besoin de la vie que Dieu donne, la vraie vie, celle qui est plus que juste physique, mais spirituelle, celle qui satisfait, qui donne la paix, la joie, Et Jésus a la réponse à tout ça. Donc, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il se montre comme étant la réponse à tout ce qui est de plus fondamental chez l'être humain, tout ce qui est la quête d'un cœur humain. Jésus est la réponse. Et aujourd'hui, et pour le mois de décembre, on considère la vie. Le fait que Jésus est la vie. Que Dieu est le Dieu vivant. Et alors qu'on plonge nos regards pour considérer ce thème, j'aimerais qu'on regarde ce matin quatre caractéristiques du Dieu vivant. Puis là, j'aime pas le mot caractéristique, ça fait étude théologique, ça fait un peu frette. Puis froid, excusez. Frette, connaissez, faites-tu assez longtemps que vous êtes au Québec? Frette. Quand on va dehors puis qu'il fait frette, c'est d'habitude c'est en bas de moins 20. OK? Quand il fait froid, ça se supporte, mais frette, là, oh là là! OK? Fait que caractéristique, ça fait un peu froid. Quand même pas dire jusqu'à frette, mais bon. Mais c'est que l'idée, c'est. Quand on parle du Dieu vivant, c'est de quoi qu'on parle? C'est ça que je veux. Tu sais, bon, j'ai pris le mot caractéristique, là. Désolé, si vous avez un meilleur, vous me suggérez après. Pas pendant, j'aime pas être interrompu pendant que je prêche. Mais je veux qu'on voit. Ce Dieu vivant, comment on peut le découvrir? D'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, quand ça dit dans verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et ça nous montre que, la première chose, Dieu est la source de toute vie. Il est la source de toute vie. Mes amis, parce que Dieu a la vie en lui-même, il est la source de toute la vie. OK? Il est, puis d'ailleurs, le seul qui peut la donner, regardez au verset 21, si on recule un petit peu. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Parce qu'il est source de vie, il donne la vie. OK? Il est la source de toute vie. C'est lui le seul qui donne la vie. Et en passant, c'est vrai pour la vie physique, hein, parce qu'on sait dans la Genèse, hein, Dieu a créé l'homme et il a insufflé en lui le souffle de vie. OK? Mais ça nous dit aussi que Jésus, le dernier Adam, il est un esprit vivifiant. Maintenant, ce que j'aimerais voir là-dessus sur le fait que Dieu est la source de la vie, c'est que il est le commencement. Tu sais, c'est sorti tantôt dans le temps de prière. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et toute vie commence avec lui. Non seulement dans le domaine physique, comme je viens de le dire, mais aussi dans le domaine spirituel. Si vous êtes ici et vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, il y a eu un commencement. Où est-ce que Dieu vous a donné sa vie surnaturelle, spirituelle? OK? Comme on est né dans ce monde un jour, on a une date de naissance, un jour on est, ceux qui sont ici, un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. C'est ça qu'on dit, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né dans la famille de Dieu, né d'en haut, régénéré par l'Esprit du Dieu vivant. Et juste vous lire là-dessus deux versets, parce que depuis qu'on est né, physiquement tant que spirituellement, non seulement Dieu nous a donné la vie, mais c'est lui qui nous soutient la vie. C'est ce que le psaume 27:1 nous dit. « L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Si je n'avais pas l'Éternel, je ne pourrais pas même rester en vie. » Aussi dans le psaume 66, ça dit « Il a conservé la vie à mon âme. Il n'a pas permis que ton pied chancelle. » Maintenant, tournez avec moi dans Actes 17. On va parler un peu du fait que Dieu est la source de la vie. Et ici, on a Paul. Vous savez, Actes 17, c'est le fameux discours sur à l'Aréopage. L'endroit public d'Athènes où est-ce que les gens philosophaient. En fait, la Bible nous dit qu'ils aimaient passer la journée à dire et écouter des nouvelles. C'est pas des nouvelles. LCN, là, ça a commencé dans ce temps-là, OK? Non, c'était pas le même genre de nouvelles, là. Mais c'était des philosophes. C'était peut-être un peu plus haut parce que ça allait mieux pour pelleter les nuages, hein, tu sais, sur une colline un peu plus haut, parce que c'était des pelleteux nuages, des Grecs, OK? La sagesse, ils cherchaient l'homme parfait, ils cherchaient la sagesse incarnée et tout ça. Et donc, Paul s'en va là. Il nous parle de ce qu'eux, très intelligents, humainement, ne connaissaient même pas. Et vous savez qu'il leur dit, hein, Il dit, j'ai vu que vous étiez très dévoué. J'ai même vu une statue au Dieu inconnu. C'est drôle qu'il voulait adorer toutes les divinités. Puis pour être sûr de ne pas en manquer une, ils ont mis une statue au Dieu inconnu. Puis Paul, il part de là, il dit, ben, moi je le connais. Celui que vous ne connaissez pas, je le connais, puis je vais vous en parler. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut lire, dans ce discours-là. On va commencer au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » On voit vraiment ici, Dieu est la source de toute vie, n'est-ce pas? Et il dit ça ici à des païens, des gens qui n'avaient pas la connaissance du vrai Dieu, mais c'est de là qu'il part. Et donc, Paul ici, il parle à un public bibliquement illettré. Okay? Ce n'était pas des gens qui connaissaient la Bible ou l'Ancien Testament, comme si Paul prêchait à des juifs, mais il prêchait à des gens qui n'en connaissaient rien ou presque rien. Il leur révèle la vraie identité de ce Dieu. Il dit, vous pensez le connaître, mais vous ne le connaissez pas. Mais regardez aussi ce que ça dit au verset 29. « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, » c'est toujours Paul qui prêche, là, « nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait du mordant dans la prédication de Paul, c'est que le Dieu duquel il leur parlait n'était pas un Dieu mort. Puis Dieu l'a prouvé en ressuscitant Jésus des morts. Et il dit, je vous annonce celui qui est inégalable de toutes les autres. Le fait que Dieu est vivant, ça le met complètement dans une catégorie à part. On parlait de sainteté de Dieu le mois passé. Ben, le fait qu'il est vivant, ça fait partie de sa sainteté. Tous les autres dieux, c'est des idoles, sont morts, sont faites par les hommes. Et c'est pour ça que tous ceux qui adorent ces dieux-là, ça nous dit, ils leur ressemblent. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est, quand on n'est pas sauvé, on est mort dans nos offenses et nos péchés. Et c'est pour ça que ça dit qu'il ordonne à tous les hommes de se repentir, parce que la seule façon d'avoir la vie, c'est de se tourner vers celui qui donne la vie et de recevoir la vie qu'il donne. Si vous êtes ici et vous n'avez pas la vie éternel par Jésus-Christ, vous avez la vie physique, sinon ça serait un enterrement, ça serait une cérémonie de... Mais si vous êtes vivant, vous avez la vie physique, vous devez avoir la vie éternelle, la vie spirituelle par Jésus-Christ. C'est lui le seul qui la donne. Donc si vous êtes ici puis vous avez une religion, vous avez certains principes avec lesquels vous êtes d'accord, mais je ne parle pas ici d'être religieux ou d'avoir des choses dans votre tête dans lesquelles vous êtes d'accord. Je parle d'avoir la vie de Dieu. Et mes amis, ça, quand on l'a, c'est plus pareil. Ça aussi, c'est sorti dans le temps de prière. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, quand on reçoit Jésus, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant, puis il y a un après. Il y a un mort dans les péchés, puis il y a un vivant avec Christ, en Christ. Le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière. Royaume de Satan, royaume de Dieu. Et pour ceux ici qui sont chrétiens, ah, n'est-ce pas merveilleux de connaître celui qui est la vie. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce même Paul de dire, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il était déjà dans la vie inaltérable. Quand on est vivant, est-ce que même la mort ne peut pas nous atteindre? Pourquoi qu'on aurait peur de la mort? C'est même pas une menace. Pour ça que M. Tson, lorsqu'il s'est fait, Iosef Tson, ce prédicateur roumain qui était en Roumanie dans le temps du communisme, Il se faisait menacer. Sais-tu que j'ai le pouvoir de tuer? Il dit, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, puis vous me menacez avec la gloire. Il dit, vous me dites que je vais mourir, quand je vais mourir, je vais rencontrer mon sauveur. Je dis, il n'était pas arrogant, il était juste véridique. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a rien à craindre. C'est pourquoi il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Si vous êtes ici, vous avez la vie de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Et sinon, savez-vous que Dieu est la fontaine des vives eaux? Je veux juste vous lire une couple de passages sur le fait que Dieu est la source de vie, la source d'eau vive. Écoutez bien. Ça dit dans Ésaïe 55:1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Jérémie 2:13. Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Écoutez Zacharie, chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Ah, et je ne voudrais pas passer à côté de Jean 7, d'élève de notre Seigneur lui-même lorsqu'il était sur terre. Le grand jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Si vous en doutiez, c'est clair selon la parole, Dieu est la source de toute vie. Une autre chose que j'aimerais qu'on considère ce matin sur notre Dieu vivant, c'est que le fait qu'il est vivant, ça veut dire qu'il est le seul vrai Dieu. Lui est vivant, les autres sont morts, sont faux. OK? Et la Bible regorge de passages là-dessus. Je veux juste vous en donner une coupe, mais avant, on va aller dans Actes chapitre 14. Dieu est le seul vrai Dieu vivant. Hein, je veux dire, il n'y en a pas d'autre. Ce qui pourrait se rapprocher le plus, Satan, le Dieu de ce siècle, voudrait se faire passer pour Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc, on peut dire qu'il est vivant dans le sens que c'est un être réel. On croit que Satan n'est pas le fruit de l'imagination. On a un ennemi réel, puis c'est l'accusateur des frères, puis tout ça. Sauf que le problème avec lui, c'est que c'est un menteur, il est meurtrier dès le commencement, puis s'il dit qu'il est le Dieu de ce siècle, c'est avec un petit dé, puis il est rien en comparaison avec le seul vrai Dieu vivant. Donc, il y a un seul vrai Dieu qui est digne de ce nom, c'est le Dieu vivant. Regardez chapitre 14 dans Actes, chapitre 14, verset 15, s'écrit, « En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? » Ça, c'est lorsque les gens venaient les adorer parce qu'ils avaient fait un miracle au milieu d'eux autres avec le serpent qui voulait mordre Paul. « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. En vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Paul, devant ces gens, ces païens qui ne connaissaient pas Dieu et qui voulaient les adorer, puis ça avait rapport au culte avec les divinités qu'il y avait à cette époque-là. Il y en a un qui disait qu'il était Jupiter, bon, puis l'autre Mercure. Et il dit non, on est des hommes de la même nature que vous. Il y a un seul vrai Dieu, le Dieu vivant, puis c'est vers lui qu'il faut que vous vous tourniez. Et donc, ça, c'est un exemple dans le livre des Actes, mais juste, je vais vous donner deux psaumes qui sont particulièrement. Fort par rapport au fait que Dieu est le seul vrai Dieu. Écoutez bien ce que le psaume 115 nous dit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Puis, un peu dans le même sens, dans Psaume 135, ça dit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Vous dites « Ouais, mais ça se ressemble. » Oui, quand Dieu répète, c'est parce qu'il veut amener le point pour dire « C'est définitif, c'est comme ça. » Ces deux psaumes se complètent pour dire que il y a un seul vrai Dieu. Les idoles des nations sont vains. Ce n'est rien. On ne doit pas les craindre. Vous voulez plus de détails là-dessus, vous irez voir dans Ésaïe 44, vous allez voir un passage, je pense peut-être le plus long. En fait, l'ensemble, dans les chapitres 40 d'Ésaïe, vraiment on voit la vanité des idoles, mais spécialement le chapitre 44, c'est assez spectaculaire de voir comment Dieu littéralement démolit les idoles. Je veux dire, c'est l'iconoclaste par excellence. Vous savez, c'est quoi un iconoclaste? Un briseur d'icônes. Et Dieu les brise tous, ces idoles vaines des nations. Dans le Nouveau Testament, ça nous dit dans 1 Corinthiens, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme le Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Puis regardez aussi dans Jérémie 10, ça dit, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. » Et les nations ne supportent pas sa fureur. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car les idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Là, avant qu'on jette toute notre blâme sur ces méchants païens qui adorent des petites statues, j'aimerais vous dire que les idoles ne sont pas limitées à l'or, la pierre et l'objet des mains. Vous savez, on est des êtres idolâtres. On peut avoir des idoles dans nos cœurs. On peut avoir des idoles mentales. S'imaginer des choses. Des idoles de nos passions. Des choses qui nous passionnent plus que le seul vrai Dieu. Et ça vient. Un idole, ça peut être une occupation, ça peut être une personne, ça peut être le fruit de notre imagination. C'est n'importe quoi qui vient se placer entre nous et le Dieu vivant. Et c'est la fabrication des hommes, c'est vain. C'est pas le vrai Dieu. Et personne n'est au-dessus de l'idolâtrie. Parce que la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? On a tous ce cœur idolâtre. Ah, mais gloire à Dieu, ça dit dans 1 Thessaloniciens, avec des gens comme ça, des païens, ok, Thessalonique, c'était le monde grec, c'était le monde qui n'avait pas la connaissance de Dieu, mais l'Évangile est rentré là-bas et Paul leur dit à ces Thessaloniciens, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Amen. Savez-vous que Dieu fait encore ça en 2020? Que Dieu est capable en ce moment de briser le cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Il peut briser le cœur le plus dur. Notre sœur priait tantôt. Ah, ma fille a un cœur dur. Mais Dieu, c'est pas le premier, tu vois, n'est-ce pas? Puis moi, j'ai pensé à Paul. Tu sais, il y a Dieu, on n'est jamais au-delà de l'espérance qu'on peut avoir dans notre Dieu vivant, qui peut faire des choses extraordinaires pour sa gloire. Maintenant, on va aller un petit peu plus douloureux dans l'application. Pensez-y. Juste qu'on s'arrête maintenant. On parle du Dieu vivant. On parle qu'il est la source de toute vie, puis que c'est le seul vrai Dieu. Mais là, si on s'arrête, là, j'ai dit qu'on était au-dessus, c'est dehors, mais juste si on s'arrête, quelle folie d'entretenir une relation avec ses idoles, car le Dieu vivant et vrai est là, puis il nous offre la vraie vie. Quelle folie d'aller vers le fake, d'aller vers le faux, car celui qui est vrai, qui est vivant, qui est satisfaisant, est là, les bras grands du vent, puis il dit, on l'a chanté, venez à moi. Quelle folie! C'est pas allégorique quand la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Comment c'est fou d'aller ailleurs qu'à celui qui est la source des vives eaux. Quelle folie d'aller se creuser des citernes crevassées qui retiennent pas l'eau. En passant, ce verset-là est donné à des gens qui savent c'est quoi la valeur de l'eau. Nous, on veut de l'eau, on ouvre la champlure. Puis aller en Israël, aller dans des pays comme ça, l'eau, c'est comme de l'or, c'est précieux. Okay? Tu vas pas te donner tout l'effort d'avoir une citerne, puis si elle retient pas l'eau, là, dans le fond, c'est une espèce de boîte. En Afrique, probablement qu'on a peut-être plus ces réalités-là proches de nous. Je sais pas pour l'Haïti. Nous, ici, on connaît pas vraiment ça. Mais c'est une réalité pour bien des gens et ça nous fait apprécier la vérité qui dit « Moi, je suis là, je suis la source des vives eaux, puis vous m'avez rejeté pour vous creuser des citernes crevassées qui retiennent pas l'eau. » Wow! Ou pour l'amener dans le langage du Nouveau Testament. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le seul vrai Dieu est celui qui donne la vraie liberté. Le reste, c'est de l'esclavage. C'est pour ça que je dis, c'est de la folie, vraiment. Mais écoutez bien. On connaît le prophète Élie, n'est-ce pas? Un prophète qu'on respecte, même qu'on peut admirer jusqu'à un certain degré. Wow! Dieu l'a utilisé pour faire des choses extraordinaires, le prophète Élie. En fait, Élie est tellement un grand prophète dans l'Ancien Testament qu'il est le type des prophètes. Moïse est la loi et Élie, les prophètes. C'est comme l'archétype du prophète de l'Ancien Testament. Et vous savez que dans le chapitre 18 d'un roi, il a fait descendre le feu du ciel. Hein? Vous rappelez ça? C'est tout qu'un showdown, comme un concours, une démonstration. On dit, OK, vous, les prophètes de Baal, venez, puis faites descendre le feu du ciel. Connaissez l'histoire, ils se flagellent, ils font toutes sortes de choses, il n'y arrive rien. Même que Élie s'en moque, il dit, ah, il est-tu occupé? Il est en vacances ou je ne sais pas trop. Et là, Dieu répond à la prière d'Élie. Et non seulement, tu sais, au golf, on a un handicap, là. Je ne sais pas si vous connaissez le golf, comment ça marche. Mais lui, il s'est mis tout qu'un handicap. On parle de l'eau précieuse. Il faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas eu d'eau. Il prend plein d'eau, puis il submerge le sacrifice au point que ça débordait. Je veux dire, ça, c'est pas mal à être sûr de sa chotte, comme on dit, hein. Puis boum, le feu descend du ciel. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après avoir vu une telle démonstration du Dieu vivant, je veux dire, il n'y a pas aucun doute. Israël est tombé sur sa face, puis on dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, n'est-ce pas? Les bras me tombent quand je vois le chapitre 19. Ce même Élie s'est fait avoir par son propre cœur. Lui qui a vu Dieu comme ça à l'œuvre d'une façon si majestueuse, il s'est engouffré dans le désespoir, la dépression, l'apitoiement. Mais quel Dieu de grâce qui ne laisse pas aller dans son désespoir. Ça, mes amis, ça me réconforte. Vous savez, c'est un homme de la même nature que nous. Il a fait des grandes choses. Mais Dieu nous rappelle que c'est un homme de la même nature que nous qui avait besoin autant de la grâce de Dieu que nous. Des fois, si vous avez le goût d'aller faire un petit tour dans une grotte parce que vous êtes un peu désespéré puis vous avez tendance peut-être à vous apitoyer. Savez-vous, le Dieu de grâce est toujours là. Et Dieu l'a sorti de cette grotte, mais surtout, il l'a délivré de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se faire prendre par les idoles de son propre cœur. C'était ça, sa nature avec laquelle il avait de la misère. C'était quelqu'un de convaincu, puis tout ça, mais c'était quelqu'un qui était sujet à la dépression, à l'apitoiement. Il y a des gens qui ont une personnalité comme ça. T'as vu Spurgeon? On dit, ah, wow, t'es tout qu'un prédicateur, il était de même. C'est arrivé des fois des dimanches que les hommes de son église, il fallait qu'ils aillent le chercher physiquement chez eux, là, puis qu'ils l'amènent comme ça sur sa chaise, puis qu'ils le mettent en l'air de la chambre, puis dit « T'es appelé à prêcher, prêche la parole. » C'est pas ça, c'est vrai, là. Parce qu'il était trop déprimé. Puis ils vont dire « Ouais, mais là, il l'a pas eu facile. » Non, c'est vrai, il a été beaucoup attaqué. Mais il n'y a pas personne qui est au-dessus de ça. On a besoin du Dieu vivant, et c'est le seul vrai Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit avec l'exemple de ce prophète bien-aimé, Élie, c'est que c'était pas la fin du combat d'avoir combattu, vaincu les Baals de ce monde. Il avait besoin du Dieu vivant pour anéantir les idoles tenaces de son propre cœur et de ses propres pensées. Bonne leçon pour nous autres. Parce que ces idoles, ils persistent. Où on dit, ils persistent et signent. Parce qu'ils nous suivent partout. Ah oui, le feu est descendu sur la montagne. Mais quand il est parti, il a emmené son cœur avec lui. Puis ses idoles étaient là, puis ils suivaient aussi. Mais Dieu a voulu lui montrer que même après les plus grandes victoires, même après les plus grandes bénédictions, tu as encore besoin de moi, mon enfant. Et ça, c'est une leçon merveilleuse. Vous savez, on peut avoir des victoires dans notre vie, on peut voir des choses qui nous réjouissent le cœur. Mais il n'y a pas un matin qu'on se lève et qu'on n'a pas besoin du Dieu vivant. Jamais ça n'arrive pas. Peut-être qu'on peut penser que c'est le même, mais ce n'est pas la vérité. Ça amène au troisième point. Et j'aimerais voir ça dans Daniel avec vous au chapitre 6. Daniel dans la fosse aux lions. Mais là, on va le voir sortir, délivré de la fosse aux lions. Là. On ne va pas tout lire l'histoire. J'aimerais voir ce que le roi avait à dire. Ce roi qui aurait bien voulu aider Daniel, le roi Darius. Daniel 6, il aurait bien voulu aider ce cher Daniel qui avait une relation très bonne avec ce roi. Mais ceux qui vous rappelez de l'histoire, des gens qui n'aimaient pas Daniel, qui étaient jaloux, ils ont manigancé quelque chose pour piéger Daniel avec sa foi. Daniel n'avait rien fait de mauvais, mais comme nous autres, on ne fait rien de mauvais, mais juste pour exercer notre foi, il y a une menace. Ben, d'un peu de la même manière, Daniel, juste pour vivre sa foi, il priait. Il avait manigancé quelque chose pour l'arrêter. Mais regardez ce que ça dit. Fait que là, bon, toute l'histoire, vous savez, la fosse aux lions, Dieu ferme la gueule des lions, et Daniel passe la nuit en sécurité. Et donc, après cela, verset 25, Daniel 6, 25, après cela, le roi Darius, ça c'est le roi qui aimait bien Daniel, OK? Écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. Regardez bien ce qu'il dit. Là, ici, ça, c'est après que tout, il a vu la délivrance de Dieu et tout ça. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsistait éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. La troisième chose, j'aimerais qu'on voit non seulement Dieu est la source de la vie, non seulement Dieu est le seul vrai Dieu vivant, mais Dieu a la puissance de la vie. Il est la puissance de la vie. Ici, ça dit qu'il a délivré de la puissance des lions. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant. Puis ça dit qu'il a délivré. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Ça sous-entend que les autres idoles des nations ne sont pas capables. C'est lui qui délivre puis qui sauve. Voyez-vous, vraiment, il le met dans une catégorie à part. Il est en train de sanctifier Dieu ici, de dire, voici, le Dieu de Daniel, il n'est pas comme les autres dieux. C'est le seul vrai Dieu, il a la puissance de la vie. Il est le seul qui a la puissance de délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul vrai Dieu vivant. On peut seulement vivre par sa vie. Et ça, c'est vrai dans le domaine physique, vous savez. On n'a pas à s'inquiéter pour notre vie. Savez-vous que le jour où est-ce qu'on est né, Dieu l'a déterminé?
Amen.
Est-ce que savez-vous que le jour de notre mort aussi? C'est pas qu'on est nonchalant, puis on traverse la rue les yeux fermés, puis... Mais... Je veux dire, on n'a pas à s'en faire, dans le sens que le souffle dans nos narines et dans les mains de l'Éternel, les battements de cœur, savez-vous si on connaît comment le corps humain est un équilibre incroyable, on se rend compte, si Dieu tient pas tout ça ensemble, je veux dire, puis même si vous étudiez la physique, c'est ce qui est, quand on étudie la création, on découvre Dieu, puis juste les faits que les molécules tiennent ensemble, je veux dire, si Dieu ne fait pas sa job, si Dieu n'est pas Dieu, s'il n'y a pas la puissance de la vie, nous autres, pauvres de même, on est tous désintégrés. Mm-hmm. Parce que savez-vous que même physiquement, les atomes ne sont pas supposés tenir ensemble. Je ne veux pas vous faire des leçons de physique à matin, là. Mais ils sont supposés se repousser. T'es des aimants, des fois ça tire, des fois ça pousse, dépendamment des positifs, négatifs. Normalement, ça devrait tout exploser. Mais la Bible nous dit que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Il garde tout ça ensemble, lui, par sa puissance, parce qu'il a la puissance de la vie. Maintenant, il est le seul qui est capable de sauver puis de délivrer, comme ici Darius, ce roi en témoigne. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Vous savez, dans le livre de Josué, vous connaissez le livre de Josué, c'est le livre, hein? On voit, c'est Josué nous présente Christ, notre grand libérateur, notre grand, celui qui nous donne les promesses de Dieu. Hein, Josué, c'est un type de Christ qui nous fait rentrer dans la terre promise. Et dans Josué, au chapitre 3, verset 10, ça dit, Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez le Dieu vivant, que le Dieu vivant, pardon, est au milieu de vous. » Il chasse et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Toute la gang, OK? Vous allez connaître comment? Vous allez connaître que Dieu vivant est au milieu de vous parce que Dieu délivre. C'est Dieu qui va vous donner le pays. Dieu va se faire connaître demain. Dieu a la puissance de délivrer, de sauver parce qu'il a la puissance de la vie. Une autre application peut-être... S'il n'a pas amené des bottes à cap, avez-vous les orteils renforcés? Je vais peut-être piler sur quelques orteils. Mais mes amis, si vous adorez un Dieu qui n'est pas capable de vous délivrer de la puissance du péché, vous n'adorez pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible est vivant, il a la puissance de la vie. Il est capable, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, même pensons. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne lutte pas avec le péché, puis des fois, on ne tombe pas, puis Dieu nous relève. Mais si on n'a pas dans notre vie, si on n'expérimente pas la puissance de la vie de Dieu dans sa réalité, il est où Dieu? Il est où la réalité de Dieu dans notre vie? Malheureusement, le monde chrétien a prêché un évangile tellement... dilué, que malheureusement, beaucoup, à cause qu'ils ont répété une prière, parce qu'ils ont été d'accord avec ce que quelqu'un leur a dit sur le plan du salut, mais qu'il n'y a pas eu de conviction du Saint-Esprit, croient qu'ils sont sauvés, alors qu'ils n'ont pas la puissance de la vie, ils n'ont pas la vie de Dieu. Puis comment ça se voit? Ils n'ont pas la délivrance. Puis je ne suis pas en train de prêcher la perfection sur le péché, puis qu'on ne pêche jamais, là. Je veux dire... La Bible le dit, c'est clair, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais l'idée, c'est d'expérimenter sur une base régulière la grâce de Dieu, la délivrance, parce que Dieu a la puissance de la vie, et s'il est dans notre vie, ça va se montrer d'une façon ou d'une autre. Et ceux ici qui appartiennent au Seigneur Jésus, si vous pensez à comment soit vous avez été sauvés, ou après, une fois que vous avez été sauvés, comment... OK, quand on est sauvé, on est délivré de la pénalité du péché. Hein? Dieu nous condamnait par sa loi juste et parfaite. Et lorsqu'on a mis notre foi dans le sacrifice de Christ, Dieu nous a dit, « Je te déclare juste. » Le coupable est déclaré non coupable. Qu'on pense soit à ça ou qu'on pense dans nos vies, si vous êtes un enfant de Dieu, comment on regarde, puis « Hey, Dieu, dans ma vie, il m'a délivré, puis il continue de me délivrer de plus en plus de la puissance du péché qui m'enveloppe si facilement. » Puis on pense des fois à des péchés comme, on va parler de ça un peu ce soir, comme les pharisiens qui regardaient, « Ah, eux autres, c'est des méchants pécheurs, ça, c'est des rebelles, c'est des pas fins. » Mais ils ne voyaient pas dans leur cœur comment ils étaient rebelles au Fils de Dieu qui était devant eux.
Amen.
Puis ils pensaient qu'eux autres étaient pires, puis c'était eux les pires, parce que Jésus s'adressait à eux, puis ils rejetaient lui qui était en train de leur offrir son salut. Mais Dieu délivre même de ces choses-là, pas juste les choses évidentes que tout le monde voit, mais même les choses dans nos pensées, ces forteresses. Parce que les armes de Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses. Et ça, mes amis, c'est la marque de commerce ou l'empreinte, si vous voulez, du Dieu vivant dans la vie de quelqu'un. C'est son sceau d'authentification. Quelqu'un est sauvé, il va avoir la délivrance de Dieu qui va s'opérer d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que Dieu est reconnu. À ceci, vous reconnaîtrez... Voyons, j'ai perdu mon verset. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous autres. C'était dans le temps de Jésus, vous allez reconnaître parce que je vais vous délivrer de ces nations-là, puis nous, on va le connaître dans notre vie parce qu'il nous délivre du péché qui nous enveloppe si facilement. Et en passant, il nous délivre dans les circonstances et non pas des circonstances. Si vous pensez que parce que Dieu est dans votre vie, vous allez être sur un petit nuage, vous n'aurez plus jamais de problème, vous allez être déçu. Parce que, on le vit, là, ça fait 9 mois, là, il y a-tu quelqu'un qui avait prévu ça, puis qui est tout content, que ah, ça c'était comme je voulais, puis... Non, c'était pas exactement ça le plan, n'est-ce pas?
Non.
Mais Dieu, comme il a fait
en sorte que Paul et Silas chantaient dans la prison. Quand ils étaient dans la circonstance d'être en prison, puis c'était pas parce que c'est parce qu'ils avaient prêché Christ, puis là il y avait de l'opposition, puis ok. Mais dans cette circonstance-là, ils chantaient puis ils louaient Dieu, puis ils ont vu la délivrance de Dieu. Dans cette circonstance-là, ils ont été délivrés. Pas de la circonstance, mais dans la circonstance. J'ai terminé le livre, puis je pense, en tout cas, il était à la maison. J'ai lu sur le chemin Christ on the Jewish Road. Christ sur le chemin juif, par Richard Wurmbrand, qui est un juif messianique. L'homme est de nationalité juive, mais il a reçu Jésus comme son messie, comme son sauveur personnel. Il avait un grand fardeau pour atteindre les juifs avec le Seigneur, mais aussi tout le monde. Puis c'était dans le temps de la guerre. Il y avait beaucoup d'antisémitisme. Il y avait beaucoup d'antisémitisme, beaucoup d'oppression. C'était pas des temps faciles. Mais quand on lit sa biographie, par rapport à ça, il est éminent en 1909, puis il est mort en 2001. Je pense que Dieu avait, tu sais, quand on dit on doit s'inquiéter, je veux dire, le gars, il était passé en prison, il a eu des menaces de mort, puis tout. Dieu, c'est lui qui a donné la vie, puis c'est lui qui a décidé quand qu'elle allait finir sa vie. Mais ce que j'aime quand je lis l'histoire de M. Wurmbrand, c'est de voir la délivrance de Dieu dans les circonstances dans lesquelles il était placé. Alors, il a passé par des méchants bouts difficiles, mais son témoignage, c'est que Christ est tout-puissant. Que quand on y fait confiance, puis en passant, il se mettait dans le trouble. Parce qu'il n'était pas supposé de prêcher, il allait voir des rabbins, puis ça, puis leur prêchait Christ, puis il se mettait dans le trouble. Pas parce qu'il cherchait le trouble, parce qu'il voulait prêcher Christ, mais c'était pas très populaire. Puis quand il prêchait à des païens, hey, t'es un juif, t'es pas supposé être chrétien, qu'est-ce que tu fais à me prêcher Jésus-Christ? Ben, il dit, parce que je suis un juif chrétien. En tout cas, je vous le recommande si vous voulez le lire. Peut-être pas celui-là à Paul, parce que là, je veux pas prêter des choses qui sont pas à moi. Mais juste pour dire, il a passé par bien des circonstances, mais Dieu l'a délivré de tout. À l'intérieur, il y avait la joie, la paix, la victoire. Et vraiment, la question, c'est est-ce que je vis ça comme une réalité dans ma vie? La délivrance de Dieu? Écoutez ce que 1 Jean nous dit au chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes. » Qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Mes amis, ça peut être, on va dire, c'est dur comme parole, ça, c'est pas très gentil, mais c'est la vérité. L'idée, c'est que si quelqu'un est de Dieu, a la vie de Dieu, Dieu le préserve, Dieu le délivre, Dieu agit dans sa vie, puis ceux qui ne sont pas, Dieu le met manifeste. Et en passant, on ne doit jamais abandonner de prier pour quelqu'un qui a abandonné la voie de Dieu, parce que Dieu dit que si on prie, on peut ramener celui qui s'est égaré. Dans Jean chapitre 5, verset 20. Écoutez aussi dans 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que c'est ton témoignage ce matin? Peux-tu dire, j'ai la vie de Christ. J'ai sa vie. C'est la chose la plus importante. Ça amène au quatrième et dernier point que je veux qu'on considère ensemble ce matin. Non seulement Dieu est la source de vie, non seulement Dieu... Pourquoi donc? Il est le seul vrai Dieu et qu'il a la puissance de la vie, mais... Dieu communique sa vie. Parce qu'il est vivant, il peut la donner. Il la communique. Regardez dans Hébreux, au chapitre 1. Peut-être que vous seriez même capable de citer ce verset par cœur. Monsieur Côté, mon pasteur, il a eu une opération au cœur dans les années 90. Il y a eu deux crises cardiaques. Mettons que tu sais, quand on dit que c'était pas son temps, lui aussi, il aurait dû être mort une couple de fois. Ça a l'air qu'il passait de la tondeuse. Puis là, sa femme était dans la fenêtre, puis il allait faire « Babaï ». Il a comme fait « Ouh, Babaï ». Puis c'est comme ça, tu sais, il était comme d'un nuage.
Ça a l'air, tu sais, c'est ça. Il serait mort, dans le fond, d'une belle mort, parce que il a comme perdu la carte, puis là, sa femme a bien vu, tu sais, il est tombé à terre, puis tout. Mais lui, de son point de vue, là, c'est comme il était sur un nuage, puis il disait bonjour à sa femme de même, puis... Mais ça a donné que sa femme a regardé dans la fenêtre à ce moment-là, puis bon, c'est ça. Dieu avait pas fini, tu sais, je veux dire, il est encore vivant, puis... Mais ça, je pense que c'était sa première crise cardiaque. Mais quand il était comme ça, à passer pour l'opération, puis tout ça... C'est un passage qui repassait beaucoup dans son cœur, ce qu'on va lire maintenant. Après avoir autrefois, de mon côté, vous pourrez vous le réciter par cœur, parce que je l'ai souvent entendu de sa bouche. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je pense que c'est la meilleure ouverture d'épître de tout le Nouveau Testament. Ça, c'est quelque chose. Mais juste ce que je veux qu'on voit, Dieu, il a parlé par des prophètes. Mais dans l'époque actuelle, il nous parle, il s'est révélé à nous directement par son Fils. Et ce Fils est celui qui directement nous communique sa vie. Et on a déjà vu des passages depuis le début du message, comment Dieu est en contraste avec les idoles qui ne peuvent parler, qui ne peuvent entendre. Hein? Ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais juste quelque chose de fondamental par rapport au fait que Dieu communique la vie. Et là, je vais vous donner une couple de versets en rafale à ce sujet-là. Dieu a créé le monde par sa parole, juste le fait qu'il parle, sa parole est créatrice, ok? On voit ça dans Genèse, ok? On pourrait regarder Genèse 1 au complet, mais Dieu dit, et c'est arrivé, Dieu dit, c'est arrivé, ok? La création de Dieu, mais on voit aussi dans Hébreux 11:1, ça dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu a fait des choses par sa parole vivante. Et on le croit par la foi. Puis Dieu aussi, non seulement pour la création comme ça, mais savez-vous que quand Dieu, ça on le voit à différentes reprises dans la parole, on voit avec Abraham, on voit avec, avec Moïse dans Exode, on voit avec les disciples dans les évangiles, lorsque Jésus s'adresse à quelqu'un, à Abraham, à Moïse, savez-vous que dans les paroles, c'est pas juste « Hey Moïse, c'est toi le temps, tu veux... » Non. Il y avait quelque chose de surnaturel. Lorsqu'il prononçait son nom comme ça, il y avait une attraction sur le cœur d'Abraham, sur le cœur de Moïse, sur le cœur des disciples. Dieu a cette... Il communique la vie par sa parole même. C'est pas juste comme si... Oh, Jésus... Je sais pas si vous vous rendez compte, là. Quand on voit... C'est l'appel de Dieu, là. Tu sais, Dieu, ça dit, je connais mes brebis, puis elles me suivent, je les appelle par leur nom. Ça résonne dans le cœur. Quand Dieu prononce ton nom demain, il dit « Abraham ». C'était pas juste comme sa femme l'appelait parce qu'elle voulait quelque chose au dépanneur. Là. C'était Dieu qui l'appelait. Là. C'est Dieu communiquait la vie comme ça. Et bon, ça c'est un autre exemple. J'aime comment notre cher Pierre, vous savez, Pierre qui avait une bouche faite plus large parce que ça pouvait fitter son pied, parce qu'il mettait souvent son pied dans sa bouche. Notre cher Pierre a dit une couple d'affaires des fois qu'il s'est mis le pied dans la bouche par à peu près, là, jusqu'au genou pas mal. Mais il en a dit des bonnes aussi. Puis deux grandes confessions de Pierre. Simon Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Puis il a dit à une autre reprise. Et c'est pas toutes les versions qu'il traduisent de la même manière, mais je vous le cite ici. Dans la seconde 21, ça dit, et ça c'est dans Jean 6, 69, « Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il témoignait du fait que Dieu lui avait communiqué la vie. « Si vous êtes ici puis vous avez la vie, votre langue confesse le Seigneur Jésus. » Vous confessez que Christ est venu en chair, qu'il est vivant et qu'il sauve. C'est ça qui arrive quand Dieu est dans la vie de quelqu'un. Il communique cette vie ressort. Parce que la parole de Dieu donne la vie, n'est-ce pas? Ça dit, la parole, elle est vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants.
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais une autre chose que je voudrais qu'on voit sur le fait que Dieu communique la vie, c'est que non seulement il nous parle, puis il intercède, il nous interpelle de même, mais Dieu aussi nous écoute. Non seulement il parle, mais il écoute. Il écoute, puis il est disposé envers ça. La Bible nous dit que Dieu, il demeure auprès de ceux qui le craignent, de ceux qui l'invoquent. Connaissez l'histoire d'Anne, qui n'avait pas d'enfant, puis c'était très difficile pour elle, parce que, bon, pas le plan idéal, là, mais son mari avait une autre femme, puis bon, qui, elle, avait des enfants, donc c'était, ça y produisait des c'est-tu des meurtrissures que ça dit, le mot? Les mortifications. Mais Dieu a entendu sa prière, et Dieu a exaucé, il lui a donné Samuel. En passant, j'aime l'histoire avec Samuel, parce que avant que Dieu donne un libérateur à Israël, en Samuel, il fallait qu'il libère le cœur de sa mère. Parce que dans le fond, elle a dit « Ok Dieu, que ta volonté se fasse ». Elle a répandu son âme devant l'Éternel. Et Dieu a opéré une œuvre de délivrance dans le cœur d'Anne. Et cette délivrance-là, elle s'est encore plus accrue à travers son fils. Puis en passant, elle ne l'a pas gardé pour elle-même. Ça faisait toute partie de l'œuvre que Dieu faisait. Je veux dire, avant même qu'il naisse, elle l'avait déjà donné à l'Éternel. Dieu avait opéré cette libération-là. Dans le fond, elle voulait pour elle, c'était donc important, mais Dieu l'a amené au point parce que non, Dieu t'est plus important que ta volonté se fasse et non la mienne. Vous connaissez Salomon? Cet homme qui était d'une sagesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Dieu. Dieu l'a entendu. « Oh, un grand peuple, comment je vais faire? » Il n'a pas demandé de la richesse, il n'a pas demandé de la victoire sur ses ennemis. Il a demandé la sagesse pour diriger un si grand peuple. Et Dieu lui a donné Ézéchias. Ézéchias qui... « Oh, mes amis, il y a eu des situations, c'était pas évident. Les ennemis de l'Éternel se moquaient de l'Éternel puis ils voulaient le faire passer comme « Oh, les dieux des nations s'enchérissent » qui dit « Les dieux des nations se sont... On pas délivré de ma main, puis... » Je veux dire, quand on entend des autorités parler de Dieu, on doit prier pour eux autres. On devrait pas être choqué contre eux d'avoir pitié d'eux autres, parce que on ne se moque pas de Dieu.
Non.
Ce qu'un homme a semé, il va le récolter aussi. Savez-vous que c'est l'attitude qu'on devrait avoir face à nos autorités en ce moment? Priez pour eux autres que Dieu ait pitié d'eux autres.
Ouais.
Parce qu'ils sont dans le trouble. Je veux dire, Dieu est un Dieu, est un feu dévorant, puis c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Que Dieu ait pitié d'eux autres. Ah, on n'aime pas ce qu'ils font, puis tout ça, mais pensez-y, ils ont une âme éternelle. Et c'est quoi? Si Dieu a sauvé Nebuchadnezzar, il est capable de sauver nos dirigeants aussi. Donc, on prie pour eux autres. Dieu nous le mandate, nous le commande dans sa parole. Donc, mes amis, ce matin, le Dieu vivant, il nous communique la vie. Est-ce que tu peux dire ce matin, arrête-toi juste un instant. Est-ce que Dieu communique avec toi, avec sa parole, puis des réponses aux prières? Je veux dire, si Dieu est vivant, il est supposé d'avoir quelque chose qui se passe entre les deux, n'est-ce pas? Même toi, s'il y avait un couple, hein, qui... Ah, ben nous, on reste ensemble, mais on se parle jamais. Moi, je n'écoute jamais ma femme. Le gars, il va être mort. Quand on parlait de Dieu vivant, le gars, il est mort. Je sais pas sa femme, il est mort. Mais... Je veux dire, on dirait que c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu, puis... Il n'entend jamais parler ce Dieu-là, puis il n'a jamais rien à dire. Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que les communications sont ouvertes? Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être qu'il y a un nuage de péché, de peur, de tromperie, de toutes sortes de choses qui peuvent empêcher. Mais si Dieu est dans ta vie, il y a quelque chose qui doit se passer au niveau de ce que Dieu te dit, puis de ce que toi t'as à lui dire, puis comment il répond à ça. En passant, savez-vous comment la vie chrétienne, ça commence? Ça commence quand Dieu s'adresse à nous, avec sa parole. Hein? La Bible nous dit que Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il dit, et le Saint-Esprit va venir puis il va convaincre le monde. Le ministère du Saint-Esprit en ce moment dans le monde, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Puis Jésus, il dit pourquoi le péché, puis il explique après qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est quoi qui est arrivé? Dieu s'est adressé à nous avec la parole, puis aussi personnellement, nous convaincant de sa parole. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Si on a invoqué le nom du Seigneur, on a eu la première réponse à notre prière de notre vie. Dieu nous a exaucés, il a entendu notre cri, puis il a sauvé notre âme. Puis c'est comme ça que ça continue le reste de la vie chrétienne. Dieu s'adresse à nous, il nous convainc. On répond à ça, puis Dieu agit. Puis c'est comme ça que ça va, la vie chrétienne. C'est comme ça que Dieu communique sa vie. Regardez, écoutez bien, Jean 3:5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, il parle à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Dieu communique sa vie. C'est dit autrement dans Tite 3:5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je veux terminer avec Deutéronome chapitre 5 ce matin. On s'en va là pour terminer ensemble. Deutéronome 5. On va lire à partir du verset 23. Là, vous allez voir, c'est un peu comme en ancien français, c'est quoi? C'est le passé simple. Vous zut, là. C'est rare qu'on parle de même. Je suis content que vous êtes venu ce matin. Bon, pas comme ça que ça se dit. Oui. Lorsque vous êtes entendu la parole du milieu des ténèbres, j'avais étudié le verset, c'est verset 23. Deutéronome 5, 23. Donc c'est ça. Lorsque vous êtes entendu la voix du milieu des ténèbres, étant dit que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant. Il était effrayé. Vous savez, le Nouveau Testament nous parle de ça. Il y avait vraiment quelque chose d'effrayant à cette montagne embrasée lorsque Dieu a donné sa loi. Pourquoi? Parce que la loi nous montre la sainteté de Dieu. Ça nous montre Dieu est parfait. Sa loi est parfaite. Il y a quelque chose d'effrayant à ça. Et ici, quand il parle, savez-vous qu'est-ce qui, un peu comme dans Job, il dit on a besoin d'un intermédiaire. Il dit on ne peut pas juste voir direct d'une main. Il soupire après Jésus-Christ, dans le fond, sans le savoir. Celui qui est l'intermédiaire, il y a un seul Dieu, et un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Et il voyait qu'il ne pouvait pas s'approcher comme ça de Dieu juste de même. Il avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est la première chose que je veux dire en terminant. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 5:20, nous vous faisons... Donc, fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé par le sang de Christ, vous avez besoin d'être réconcilié. Vous êtes ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole dit que la colère de Dieu demeure sur vous. Mais c'est pour ça que vous avez besoin d'être réconciliés. Vous avez besoin de cet intermédiaire de Jésus-Christ qui, lui, a jamais péché et qui est devenu pour vous justice de Dieu. Vous devez accepter le paiement de Christ à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de solution numéro 2. Seulement le sacrifice de Christ. Et j'aime, je cite souvent ce verset-là, Hébreux 7:25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Dieu n'est pas mort. Si vous l'invoquez, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et donc aujourd'hui, si vous êtes encore mort dans vos offenses et vos péchés, vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Maintenant, à vous ici qui êtes racheté par le sang de l'agneau. À cause que vous avez accepté le sacrifice de Christ. À cause de la promesse de Dieu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On doit vivre à la lumière de ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je ne sais pas c'est quoi les besoins de chacun ici ce matin, puis je ne vais pas faire un sondage, j'ai pas besoin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui le sait, puis c'est lui qui vous les rappelle même. Peut-être que vous-même, vous êtes un peu mêlé, puis vous ne savez pas trop c'est quoi votre besoin. Mais si vous êtes à l'écoute, le Saint-Esprit a pointé quelque chose sur votre cœur ce matin. Puis c'est ça que je vous encourage à amener ce matin, là, devant le trône de la grâce. Dieu est vivant. Et Dieu, il peut s'occuper de ses enfants. Parce qu'il promet qu'il le fait. Et savez-vous quoi? Il n'y a rien de plus merveilleux de savoir que lorsqu'on prie, on est entendu, que notre Dieu n'est pas une idole, qu'il est le Dieu vivant, et que lorsqu'on l'invoque, ça change quelque chose. Amen. On va prier. Seigneur, merci qu'on peut s'arrêter et avoir un temps pour répondre à ta parole, à ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, on ne veut certainement pas que les choses soient rentrées dans une oreille et ressortent par l'autre. Oh, si on a entendu ta voix, on ne veut pas endurcir notre cœur. Alors, Seigneur, que ton peuple ici réuni réponde par la foi. Et toi qui sondes les cœurs, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas la vie de Christ, qui n'est pas encore réconcilié, oh, Seigneur, laisse pas cette personne-là s'endurcir. Laisse pas cette personne-là rejeter la lumière qu'il a reçue ce matin de ta parole, de l'amour de ton peuple. Seigneur, merci que tu es vivant pour agir. On s'attend à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez juste vous lever...